Dutrisac. Un animateur pas comme les autres. Cube Radio.
Alexandre Dubé est avec nous pour faire le tour des nouvelles du jour. Alexandre, bonjour.
Salut Benoît.
Et le nouveau cas de COVID-19, le bilan, ça ressemble à quoi?
Ben, on a battu un record aujourd'hui.
Ah, non.
Le chiffre 1514 cas, on n'a pas vu ça depuis le début de la pandémie. C'est beaucoup. C'est énormément de cas dans le contexte, avec tous les questionnements qu'on a actuellement pour la suite des choses et le temps des fêtes. Les décès aussi, Benoît. 43 nouveaux décès qui s'ajoutent au bilan, dont 9 dans les 24 dernières heures. Les hospitalisations sont en hausse aussi. 21 hospitalisations de plus, 740 au total. Et tu sais, au rythme où ça va, là, on va-tu être en haut du 800 d'ici la fin de la semaine? Puis aux soins intensifs, une personne de plus aux soins intensifs pour un total de 99. Maintenant, dans les régions, là aussi, il y a des tendances à la hausse au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans Chaudière-Appalaches, on a à peu près doublé depuis hier le nombre de cas. C'est en hausse à Québec, en Mauricie, à Montréal également. Montréal, 386 cas.
Bon, ben, je pense qu'on a la réponse à la question pour Noël.
Ben, écoute, le premier ministre est sorti hier en disant qu'il se donne 10 jours là, pour décider si il annule ou non le fameux contrat moral qui nous permettrait de se rassembler à deux reprises du 24 au 27 décembre. Et hier, M. Legault a été très, très clair. Là, on se dirige pas dans la bonne direction. Et quand on voit les chiffres aujourd'hui, c'est clair qu'on se dirige pas dans la bonne direction. Les courbes ne sont pas du bon côté. Qu'est-ce qui sera décidé le 11 décembre? Honnêtement, moi, plus ça avance, plus je me dis, je sais pas comment on va faire pour se rassembler dans le temps des fêtes. Et surtout, comment on va faire pour gérer le boom de cas après? Parce que, tu sais, selon plusieurs experts qui commencent à sonner l'alarme en disant, écoutez, là, si on permet aux gens de se rassembler à deux reprises, là, 10 personnes maximum pendant cette période-là, c'est sûr qu'il va y avoir plus de cas au retour des fêtes. Là, on voit les hospitalisations en hausse. Il y a des établissements de santé qui ont déjà de la difficulté à absorber la multiplication des cas. On a eu hier, dans la journée, des histoires dans certaines RPA, les ressources pour personnes âgées, qui avaient été beaucoup moins touchées que les CHSLD, souviens-toi, pendant la première vague. Mais là, on dirait que dans la deuxième vague, les RPA, en tout cas, il y en a quelques-unes qui sont vraiment touchées. Puis on entendait même des gestionnaires pleurer en Mauricie, centre du Québec, hier. Alors, tu sais, tu te dis, est-ce que le réseau de la santé va être capable de gérer cette espèce de boom-là au retour des fêtes? Faut pas que tu oublies non plus les employés de la santé. Et moi, j'ai fait le saut, oui puis non, en même temps, hier, en apprenant que 6500 employés du réseau de la santé sont en isolement ou en maladie actuellement. 6500, là, c'est beaucoup. C'est sûr que ça vient affaiblir un réseau qui est déjà fatigué. Écoute, ils sont là sur la corde raide dans certains cas depuis plusieurs années, mais il y a eu dans les derniers mois une surcharge de travail en plus. Alors, tu mets tout ça ensemble, le nombre de cas qui explosent, les décès qui sont élevés, les hospitalisations qui montent, puis la possibilité d'avoir une espèce de boom au retour des fêtes dans nos hôpitaux, puis la capacité hospitalière, est-ce qu'elle sera capable de répondre à ça? Mais tous ces ingrédients-là ensemble, Benoît, ça fait pas une bonne tourtière pour le temps des fêtes.
Non, un peu indigeste, hein? Oh boy! Ouais. Mais c'est ça la réalité, là. On a beau s'inventer des contes, puis des légendes, puis la fée des étoiles, qu'est-ce que tu veux, elle est pas là pour nous aider. Puis il va falloir qu'on vive avec la responsabilité de contaminer quelqu'un qui peut, tu sais, au grand-papa, grand-maman, là, pas facile à gérer, ça, là.
C'est clair que tu veux pas avoir l'odieux de ça. Puis tu sais, des fois, là, il y en a qui auront beau se mettre les mains sur les yeux pour plus voir un problème, là. Des petites nouvelles pour vous autres, là. Si vous enlevez vos mains, le problème va être encore là.
Coucou.
Ouais. Coucou. Ouais. C'est pas, la solution, elle n'est pas là. Maintenant, ce sera quoi le meilleur scénario pour la période des fêtes? Je comprends que c'est difficile pour la période des fêtes. C'est pas évident. Puis on a tous, toi et moi, on a des familles, on a des gens qu'on aurait aimé voir. Mais en même temps, quelles sont les conséquences de contrat moral-là? Et quand on voit les chiffres, écoute-moi, à 1514 cas, là, je comprends qu'on a fait 27 000 tests. Oui, on a testé beaucoup, mais c'est un sommet jamais égalé. Là. Et c'est une tendance qu'on voit aussi ailleurs. T'sais, en Ontario, on a battu des records dans les derniers jours, dans les prairies aussi. Là, tu te dis, OK, on s'en va pas dans la bonne direction, malheureusement.
Oh, Alex, on oublie ça, puis on va magasiner.
Ben, si tu vas magasiner, Benoît, sache que tu auras de nouvelles règles à respecter.
Bon, encore. Ça va pas bien.
Parce que je sais pas, en tout cas, moi ça faisait partie des choses que j'entendais, sûrement toi aussi, là, tu sais, les gens qui disaient il y a du monde dans le centre d'achat. Surtout là, avec le vendredi fou qu'on vient de passer, on a vu certains stationnements complètement remplis là, de centres commerciaux, dans que ce soit sur la rive sud, sur la rive nord de Montréal également. Sur Sainte-Catherine, ça avait fait la file devant certains commerces. Pas tous, certains l'ont mieux géré que d'autres. Alors, voyant tout ça avec l'approche des fêtes aussi, puis le magasinage, puis là tu te dis, bon, le Boxing Day le 26 décembre, ça va avoir l'air de quoi? Donc la vice-première ministre, Geneviève Guilbeault, a fait un point de presse ce matin. Et essentiellement, ce qu'elle a dit, c'est qu'à compter de vendredi, il y a des mesures supplémentaires obligatoires qui vont être appliquées dans les commerces. Ce sera quoi? Ben, en gros, la limite du nombre de clients, avec une formule qui va tenir compte de la superficie des magasins. Donc, un magasin qui a une superficie plus grande pourra accueillir plus de clients qu'une petite boutique, là, par exemple, avec moins de pieds carrés. Les magasins vont devoir afficher le nombre de clients autorisés. S'ils ne le font pas, ils s'exposent à des amendes. Il faudra respecter, bien sûr, la distanciation dans les commerces, dans les files d'attente. Ça, c'était pas toujours le cas. Et ça, on l'a vu là, dans les derniers jours avec le Black Friday, avec le Vendredi fou. Il faudra porter le couvre-visage, mais ça, c'est déjà le cas. Et là, il y a des inspecteurs de la CNESST et même des policiers qui vont faire davantage de visites dans les magasins, particulièrement dans les périodes achalandées du temps des fêtes. Ça aussi, c'est une autre problématique.
Ouais, sais-tu quoi? Moi, dimanche, j'étais allé avec Mme Dutrisac, elle voulait s'acheter des jeans, puis je suis rentré, puis je suis ressorti, je t'attends dehors, elle a acheté des jeans, puis elle est sortie, on est sorti au plus sacrant. Les gens, ils respectaient pas la distanciation, zéro, là, pantoute, là.
Ben, tu sais, c'est ça. Moi aussi, tu sais, ça, je l'ai constaté, j'ai vu ça aussi sur des images. Puis, tu sais, c'est sûr, c'est un équilibre qui est extrêmement fragile, parce que tu te dis, nos commerçants, ils en ont arraché depuis le début de la pandémie. On sait à quel point, là, c'est une période, le vendredi fou, le temps des fêtes, c'est des périodes hyper importantes. Faut encourager les commerces locaux. Maintenant, de quelle façon on peut le faire de façon sécuritaire, ben, il est là, le dilemme, tu sais. Puis, c'est certainement pas en s'entassant dans une file d'attente, là.
Pense pas non. Bon, le plan québécois pour la vaccination, où est-il?
Ben, où est-il? Et surtout la grande question, puis j'entendais Mario tantôt à son émission à LCN, la grande question, c'est le quand. Tu sais, et je suis entièrement d'accord avec lui. Là, on a des bribes d'informations. On a appris, entre autres, là, que ça allait être finalement 700 000 Québécois qui pourraient être vaccinés contre la COVID d'ici le 31 mars 2021. Ça, c'est 8 % de la population de la province. Là, le PM est conscient que ce ne sera pas assez. Mais il dépend un peu d'Ottawa pour recevoir les doses qu'il souhaite avoir. Alors là, M. Legault souhaiterait que le gouvernement Trudeau trouve des solutions pour faire produire le vaccin chez nous. Et ben, il veut savoir où se trouve le Canada dans les priorités d'approvisionnement des différentes compagnies dont le vaccin est efficace. Puis je voyais une caricature dans les derniers jours où là, c'était quelqu'un, par exemple, de Santé Canada qui venait voir un producteur de sirop d'érable et en disant, on peut-tu transformer vos infrastructures? La caricature m'avait fait sourire parce qu'on n'a pas les capacités de production au Canada, puis c'est un peu ça le problème, là, tu sais. Et c'est sûr que le calendrier de vaccination va être important. Va être extrêmement important de savoir quand ça commence, c'est quoi les objectifs. Là, on a des premiers chiffres. À savoir, bon, d'ici le 31 mars, on souhaite avoir vacciné 700 000 Québécois, mais ça commence quand?
Pas fait, hein? Mais moi, je pensais qu'on avait l'Institut Armand Frappier qui a déjà produit des vaccins, mais là, ça a été vendu. Écoute, j'ai lu le blog de Léopold Lauzon là-dessus, là, en 2016. Et là, il faisait la nomenclature de toutes les étapes, les entourloupettes, les ventes, la privatisation de l'Institut Armand Frappier. Mmh. Et finalement, là, ce que je comprends, c'est qu'il y a un musée, il y a du monde dans des bureaux là qui font des tests de dopage, mais on a perdu cette capacité de produire des vaccins qu'on a déjà eu au Québec. Mais là, il est comme trop tard, fait que là, on est dépendant des étrangers qui nous ont mis en bas de la liste pour la vaccination.
On est dépendant, c'est clair, et là, Québec veut amorcer sa campagne dès le mois de janvier, mais est-ce qu'il sera en mesure de le faire? Maintenant, qui va être vacciné dans les premiers groupes? C'est sûr qu'il faudra prioriser les gens plus vulnérables. Ce sera quoi le plan de déploiement de ce vaccin-là? Là, il y a le comité sur l'immunisation du Québec qui doit faire bientôt là, une recommandation là-dessus. On nous dit que le plan de déploiement du vaccin, ça va être prêt d'ici une semaine, mais personnellement, j'ai vraiment hâte de voir ça.
On va voir ça. Armand Frappier, je pense que c'est la tuberculose, là, hein, des vaccins contre la tuberculose qui avait été développé là dans les années 50. Là, on est rendu en 2020, 21e ouais. siècle, puis on n'a plus cette expertise-là. Super. Cri du cœur des parents. À quel sujet?
Il y a des parents qui lancent ce cri du cœur-là parce que la pénurie de personnel dans les services de garde est vraiment en train de s'aggraver en raison de la pandémie. Là, ce qui se passe concrètement, c'est qu'il y a des directions de CPE qui sont épuisées. Ils ont épuisé toutes leurs ressources et maintenant, ils doivent se résoudre à demander à des parents de garder leur enfant à la maison quand c'est pas possible de remplacer une éducatrice ouais. qui rentre pas ou qui est malade, par exemple. Puis ça, des bris de service comme ça, on n'a jamais vu ça, selon ce que dit l'Association québécoise des centres de la petite enfance. Et dans certains établissements, ben les difficultés de recrutement, c'est tellement important, c'est tellement grave que... Là, il y a des parents qui s'offrent pour remplacer même pendant les pauses ou dans les services de repas directement là, dans la garderie, dans le CPE. Il y a 7600 parents qui ont signé une lettre qui est adressée au premier ministre pour dénoncer cette situation-là. Et les parents déplorent de devoir manquer le travail, évidemment, parce qu'ils peuvent pas garder l'enfant à la maison tout seul.
Ouais, Alex, on leur a parlé tantôt. Là, ils sont rendus à 8800 parents qui ont signé. Écoute, les parents embarquent là-dedans, là, puis la reconnaissance des éducatrices en service de garde. C'est sûr que ça vient avec aussi les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, les enseignantes. Là, c'est un mouvement là, qui a lieu présentement au Québec. Là.
Ben, c'est clair, mais les revendications sont importantes parce qu'il ne faut pas que ça se mette à craquer de partout. Là. Tu vois, là, dans des secteurs d'activité, que ce soit le réseau de la santé, le réseau de CPE, où on fait des demandes depuis des années, où on dénonce des situations depuis des années, et là, face à une crise comme ça, souvent... C'est dans ce contexte-là là, que les difficultés, que les points, sans dire les points plus faibles, mais tu sais que vraiment le maillon le plus fragile de la chaîne ou qui devrait être le plus renforcé, c'est à ce moment-là que ce maillon-là il est mis à rude épreuve et on voit les conséquences aujourd'hui.
Bon, là il y a des gens qui vont vouloir déménager à Londres.
Le Royaume-Uni vient d'approuver l'utilisation à grande échelle du vaccin de Pfizer. Et là, on va commencer à le déployer dès la semaine prochaine. Ça, c'est le premier pays à le faire. Mm-hmm. Devant les États-Unis, le gouvernement britannique parle d'une étape historique dans la lutte au coronavirus qui a fait quand même 59 000 morts dans le pays le plus touché d'Europe. Et la bonne nouvelle, ça survient alors que l'Angleterre sort aujourd'hui d'un deuxième confinement de 4 semaines. Il y a des mesures strictes, par contre, qui sont toujours en vigueur là-bas. Et puis, on va appliquer un système d'alerte à 3 niveaux, au moins jusqu'en février. Je te parlais des États-Unis il y a un instant. Là, on attend encore la décision de la FDA pour les vaccins de Pfizer et de Moderna. Les rencontres sont prévues les 10 et les 14 décembre, mais entre-temps, les centres de contrôle de maladies ont quand même fait connaître leur liste de priorités pour la vaccination. Ça va se faire par phase. Et les CDC, les centres pour le contrôle donc des maladies infectieuses, recommandent que les premiers à recevoir le vaccin soient les professionnels de la santé, ensuite les bénéficiaires de résidences de soins de longue durée, et ça correspond à peu près à 24 millions de personnes.
Bon, ben, c'était les excellentes nouvelles du jour. Alex, lâche pas, puis on se reparle demain.
À demain, Benoît.
Salut, merci.